Un amendement a été adopté en 2020 qui a pour conséquence d'obliger les municipalités à céder gratuitement des immeubles ou des terrains au Centre de services scolaires pour la construction ou l'agrandissement des écoles. L'Union des municipalités du Québec, ça c'est en 2020, et maintenant l'UMQ revient à la charge dans le dossier de cession de terrains scolaires. Et on va en jaser avec Martin Danfousse, qui est maire de Varennes et le président de l'UMQ. Il est au bout du fil. Monsieur Danfousse, bon matin.
Salut, Monsieur Fortin.
Merci d'être là encore une fois avec nous. Toujours un immense plaisir de vous avoir à l'émission. Peut-être juste nous remettre un petit peu dans le contexte là, de 2020, l'amendement qui avait été adopté, oui.
Votre introduction est juste et intéressante parce que c'est vrai que c'est en février 2020, 6 février. Par contre, c'est un amendement qui a été ajouté pour l'adoption d'un projet de loi en pleine nuit, sans aucune consultation du milieu municipal, et ça, on ne l'a jamais digéré, parce qu'au fond, du jour au lendemain, on imposait, via les centres de services scolaires, aux municipalités, qu'eux autres choisissent les terrains qu'ils veulent, et si ça n'appartient pas à la ville, que la ville doive l'acquérir à gros frais et la redonner gratuitement au ministère de l'Éducation. On s'entend-tu que ça n'a aucun bon sens? Jamais j'aurais pu imaginer comment, ça fait 15 ans que je suis maire, là, qu'un jour, la ville devrait payer le terrain pour la commission scolaire, le centre de services scolaires, et le redonner gratuitement après. Je comprends rien. Puis là, ce qu'on vit actuellement, qu'un dernier jugement, là, le vase a explosé.
Bien, justement, on va jaser de cette situation-là, mais juste pour revenir à cette fameuse soirée, on voulait, puis corrigez-moi si je me trompe, en passer une petite vite.
C'est exactement ça. Okay. Vous avez tout compris.
Monsieur Danfousse, parlez-nous de la situation de Val-David, parce que là, c'est ça qui ramène dans l'actualité. C'est que la municipalité de Val-David, si je ne m'abuse, devra payer 12 millions pour terrain et meubles pour redonner par la suite au centre de services scolaires dans le but de développer une école.
C'est bien plus que ça. La réalité, c'est qu'en 2021, le ministre de l'Éducation de l'époque, le ministre Roberge, impose à la ville par lettre: vous n'avez pas le choix, vous devez exproprier le terrain demandé par le service scolaire, parce que c'est une surface, un ancien hôtel. Ils décident d'exproprier la partie qu'on leur impose, ils le font, ils exproprient. Mais attendez, la propriétaire du terrain conteste l'expropriation en disant non, vous n'avez pas le droit d'exproprier juste la superficie que vous avez de besoin. Vous devez exproprier la totalité de tout le terrain de l'hôtel qui est beaucoup trop grand pour le centre de services scolaires.
OK.
Et la ville de Val-David a perdu. C'est 29 millions qu'ils doivent débourser. Puis imaginez-vous donc, leur budget à eux, annuel, c'est 12. Fait que c'est comme une faillite technique instantanée imposée par le ministère de l'Éducation qui n'a pas d'allure.
Mais comment qu'on explique cette situation-là qui, en vous écoutant, a juste pas de sens?
Bien, en fait, il faut poser la question au ministère de l'Éducation. Quand on les a rencontrés, ils reconnaissaient qu'il y avait des situations qui étaient complexes, tout ça. Quand c'est des grandes villes, c'est des petits terrains qui appartiennent déjà à la ville dans des parcs. Je l'ai vu à côté de moi à Boucherville. Ils avaient un grand parc. Ils prenaient une partie du parc qui appartient à la ville pour une école primaire. Bien, la ville était d'accord, ça fonctionnait. Bon, il y a des voisins qui étaient moins d'accord, mais ça faisait du sens. Okay. Dans le plan de développement d'une ville, les villes ont des parcs, ont des espaces. Mais là, ils donnent le pouvoir au centre de services scolaires. Non, on va prendre un terrain privé. Puis là, il va arriver quoi? Le terrain privé, le propriétaire, moi comme vous, on apprend ça.
Ouais.
Ah, bien, ça se peut que le prix va augmenter. Il y a des endroits où le prix a doublé. Mais là, on impose quand même à la ville. Non, tu dois l'acheter pareil. Ça n'a aucun bon sens.
Puis si c'est fait pour des écoles, tout ce processus-là, pourquoi c'est pas le ministère de l'Éducation qui paye?
Bien, poser la question, c'est y répondre. C'est exactement ce qu'on plaide depuis le début. Ça a toujours été comme ça. C'est la responsabilité du ministère de l'Éducation. Et là, encore une fois, on vous le plaide depuis longtemps, là. Sur plein de sujets, on n'arrête pas de nous décharger des responsabilités au milieu municipal, puis l'argent ne vient pas avec. Mais l'exemple des terrains scolaires est, à mon avis, le pire des exemples. Ce n'est même pas notre responsabilité. Puis là, l'histoire de Val-David, qui a ni queue ni tête, Là, c'est plus que le budget de la ville. Imaginez, là, la ville de Montréal, c'est des milliards de budget. S'il fallait que le terrain vale le double du prix, pensez-y, là. Ça n'a aucun bon sens. Moi, mon budget, c'est 58 millions. S'il fallait que mon terrain coûte 100 millions, puis c'est plus que le double, bien là, c'est une faillite de la ville. Fait que là, ça va forcer le gouvernement à revoir leur politique parce qu'elle ne tient pas debout.
Mais vous dites que ça va forcer le gouvernement à revoir sa politique. Présentement, il dit quoi, le gouvernement? Est-ce qu'il montre une ouverture à changer ça ou il fait la sourde oreille?
Bien, le jugement est récent. Fait que c'est sûr que là, c'est le début des vacances. Il ça siège plus au Parlement. Fait que c'est sûr qu'ils sont pratiquement contents. Mais la réalité, c'est que ça va revenir parce que la ville ne peut pas. Elle ne peut pas taxer ce montant-là à ses citoyens. Les citoyens vont tous quitter la ville.
Ouais.
La ville va devenir faillite instantanée. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas avoir une dette d'une année de cette ampleur-là qui s'additionne à leurs responsabilités. Fait que c'est sûr que ça ne pourra pas rester comme ça. Mais il y a plein d'autres situations qui sont latentes, qu'on va vivre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Puis pire que ça, ce qui nous fâche aussi beaucoup, vous le savez, on parle de densification partout au Québec. Il est important d'arrêter de trop prendre des grands terrains, d'aller d'intérêt agricole. On le sait, puis on est collaborateur avec ça. On veut densifier davantage en hauteur pour le bâti, les logements, les appartements, les condos. Parfait. Mais quand arrive le temps des écoles, ils le font même pas. Ils ont encore le vieux modèle des écoles primaires, secondaires, qui prennent des terrains gigantesques puis qui ne montent pas en hauteur. Puis pourtant, quand on regarde nos institutions privées, scolaires, dans la majorité des territoires, partout au Québec, les édifices ont 4-5 étages. Mais quand on est au primaire ou au secondaire, on y va 1-2 étages, pas plus. On est habitué comme ça, nos plans sont faits comme ça. Ça tient pas la route.
Monsieur Danfaux, je sais que ça devrait être du... Évidemment, dans le gros bon sens, je me dis que ça doit être du cas par cas puis pas juste un règlement pour chaque situation. Et juste, c'est peut-être un peu technique, mais juste pour bien comprendre, quand on parle d'exproprier, quand on parle de reprendre un terrain privé, de forcer la vente ou forcer l'achat, est-ce que c'est parce que plusieurs municipalités manquent de place, il y a une saturation, on manque de place pour construire des nouvelles écoles?
Quand on parle d'expropriation, c'est parce que le vendeur soit veut pas vendre ou veut vendre plus cher, ou dans le cas de Val-David, c'est vendre plus cher et vendre tout le terrain au lieu de vendre la portion que l'école avait besoin.
Okay.
Donc, c'est parce qu'il n'y a pas d'entente. Fait que là, on est forcé, on a un pouvoir d'expropriation, mais ça prend des motifs.
Mm-hmm.
Mais là, le motif est imposé par le ministère de l'Éducation qui dit à la ville, vous devez acquérir le terrain à notre place et nous le redonner gratuitement.
Ouais.
On s'entend que ça fait pas de sens, là.
Ouais.
Parlant de choses qui ne font pas de sens, M. Danfaux, j'en profite pour vous parler de quelques dossiers, quelques suivis de dossiers. L'itinérance au Québec.
Ouais.
On a eu le sommet sur l'itinérance au mois de septembre, quelques promesses du gouvernement, mais on sent sur le terrain que la crise s'agrandit. Je fais juste regarder ici dans la grande région de Québec, Chaudière-Appalaches, notamment Lévis, le complexe 55, la cohabitation est difficile avec les résidents, c'est des itinérants qui ont quand même un haut degré de risque d'intoxication. Qu'est-ce qui se passe en itinérance au Québec depuis le sommet? Est-ce qu'il y a vraiment des actions concrètes qui ont été faites?
La réalité sur le terrain, c'est difficile. Il y a eu des actions concrètes, il y a eu de nouvelles sommes, je vais être franc.
Mm-hmm.
Par contre, les nouvelles sommes ne sont pas du tout à la hauteur de la progression du problème. Les dernières données de 2022 qui sont répertoriées démontrent une augmentation de 44% de gens vivant de l'itinérance. Ça, c'est plus de 10 000 personnes au Québec. Et ça, c'est ceux qui ont été capables de répertorier. Parce que l'itinérance, c'est pas facile de les retrouver. Et souvent, ils peuvent squatter des appartements dans la famille,
ouais,
dans des amis. Ils n'ont plus de lieu fixe, mais ils se promènent. Mais eux sont pas répertoriés. Donc, le problème est croissant. Puis quand je vous parlais de mon expérience il y a 15 ans, s'il y a 15 ans, quand je suis arrivé, on m'aurait dit, Martin, un jour, tu vas devoir t'occuper de l'itinérance dans ta ville, je l'aurais pas cru.
Mm-hmm.
Parce que malheureusement, on associe l'itinérance souvent à la drogue, à l'alcool,
ouais,
là il y a les opioïdes, la maladie mentale. T'sais, Valérie Plante l'a mentionné, elle a dit là, il faut cesser que la rue devienne l'hôpital, parce qu'on en voit de plus en plus. Puis honnêtement, le problème est loin d'être réglé. Je parlais justement avec le ministre fédéral, Fraser, pas plus tard qu'hier, pour lui en parler. Ça prend des sommes aussi du fédéral. Le fédéral donne 1 $ par itinérant au Canada, tandis que le provincial et le municipal, c'est 13. Juste pour vous dire ce qu'on consacre dans nos budgets et l'écart, comment il est marqué. Donc, ça prend davantage de moyens. Malheureusement, c'est une situation qui est difficile. Puis, il y a un lien direct avec la crise du logement dont on parle depuis 2 ans aussi, là, parce que plus les loyers sont élevés, moins ils sont disponibles, ben ça fait en sorte que la population la plus vulnérable, c'est eux qui se retrouvent le plus à risque.
Monsieur Danfous, en terminant, fin de session parlementaire, est-ce que l'UMQ est satisfait du travail de la CAQ pour la première moitié de 2024?
Il y a eu beaucoup de projets de loi. Il faut être honnête, là, je suis ici à Saguenay en ce moment. Il y a une autre annonce qui sera faite par la ministre Laforêt. Je vais l'accompagner. C'est d'autres bonnes nouvelles. Il est important, ce qui était majeur pour nous, là, c'est le renouvellement de notre entente avec le gouvernement, le fameux pacte fiscal dont on a longtemps parlé. Puis on a réussi. Puis honnêtement, Madame la ministre Laforêt nous a invité à réussir à s'entendre. Avant Noël, je lui ai dit, j'y croyais pas, mais ça a fonctionné. Le 20 décembre, on a signé cette entente-là. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de projets de loi pour l'autonomie municipale, donc qui vont dans le bon sens, mais, il y a un mais, d'un autre côté, il faut arrêter de nous déverser des responsabilités parce que l'argent ne vient pas avec. On parle de climat, regardez les dernières pluies diluviennes, ce qui s'est passé à Jersey, je pense que c'est 50 km de route scrappées, là. Mais ça va être des sommes colossales. Fait qu'il faut mieux travailler en amont. Il y a un plan climat que chacune des municipalités va définir, ce qui va aider pour prioriser les interventions qui doivent se faire dans les villes. Mais les enjeux sont de plus en plus importants. Il y a eu des bonnes notes, il y a eu des moins bonnes notes.
Martin Danfous est maire de Varennes, président de l'Union des municipalités du Québec. Monsieur Danfous, merci pour la jasette ce matin.
Merci à vous, à la prochaine.
À bientôt.
Bye.
Merci.
Un petit tour de ce qui se passe avec les municipalités et le maire d'Anfous.
Moi, je trouve toujours ça cocasse de constater que le gouvernement du Québec se plaint au gouvernement fédéral en disant « En immigration, vous nous obligez d'accueillir des gens, puis c'est nous qui devez payer. » Puis que dans d'autres cas où eux sont dans cette
position-là,
ils disent aux municipalités « Ben non, payez pour une nouvelle école.
Ouais. »
Pourquoi une municipalité va payer pour une nouvelle école quand c'est un service qui est desservi provincialement par le ministère de l'Éducation. Ouais. Il n'y a aucune logique là-dedans. C'est au ministère de l'Éducation et même au centre de services scolaires à payer pour sa nouvelle école. Tu sais, à gérer son budget en fonction qu'il y aura une nouvelle école de construire. Les centres de services scolaires, ils ont des conseils d'administration. T'sais. Donc, c'est incompréhensible ce qui arrive avec les municipalités. Et on va mettre Val-David à terre pour une école.
Très complexe aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de cas par cas. J'ai bien aimé apprendre qu'on avait pris la décision de nuit, là, vite. En début de jasette avec M. Danfous, mais en souhaitant que M. Danfous a bien vulgarisé puis on a bien compris la situation qu'il y a en ce moment avec les centres scolaires et les municipalités.
Puis à la fin, son point est bon là, sur tous les changements climatiques. Est-ce que ça apporte aux villes? D'ailleurs, travaille beaucoup ça au niveau de la CMQ ici à Québec avec Bruno Marchand sur comment adapter les villes aux changements climatiques. Puis un bon article là, sur Radio-Canada là, aujourd'hui là, qui parle justement de changement climatique, de l'augmentation de la température, puis qu'est-ce que ça pourrait amener ici. Puis dans ce temps-là, je pense toujours à nos agriculteurs aussi, s'il y a de plus en plus de pluies
diluviennes.
Diluviennes, et voilà. Évidemment, ça va leur amener encore des problématiques.
Absolument. Hey, Jérôme 50, la plus récente s'appelle Lidouble, puis je pense que c'est assez unanime. En tout cas, là, le trio de Rage Against le matin, mais même à Boulevard 102.1, qu'on aime beaucoup cette chanson-là. On se garde musicalement. Jérôme 50, Lidouble. Je veux le mentionner. Le 19 juillet, à Donnacona, Festival Secousse avec Carotté.